Donc aujourd'hui, on va parler de la victoire dans la vie. Globalement, c'est en trois points, et puis après, c'est quelques suggestions, quelques conseils pour réussir. Et puis n'oublie pas que je vous ai déjà dit, il y a le papier sur la table là, qui donne 14 points, etc. Donc le premier thème qu'on va aborder, c'est libéré par l'Évangile. On a parlé déjà deux, trois semaines concernant le péché. C'est là le grand problème, c'est ça qui nous condamne. Mais on a aussi parlé un peu de l'Évangile. C'est par l'Évangile que Dieu nous pardonne, qui nous lave, qui nous donne cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Et donc, quand Dieu nous sauve, il nous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous accompagne de ce moment de notre salut jusqu'à l'éternité. Il ne nous quittera plus jamais. Et après, il y a ce thème que nous sommes morts à notre vie passée, nous sommes morts à notre péché, nous sommes morts vis-à-vis de qui on était. Et donc, nous avons le droit à dire non au péché. Donc, c'est les trois points globaux. Hein? Libéré par l'Évangile, accompagné par le Saint-Esprit et mort au péché. Je voudrais lire dans Colossiens chapitre 3, c'est la page 1185, si vous avez cette Bible, 1185. Patrick, tu peux lire? Versets 1 à 10. Donc, Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 10.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé.
Ok, merci. Donc, le premier pas pour vaincre le péché est de recevoir le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Il faut commencer là. On est pécheur, et si on veut changer, et c'est que Dieu qui peut nous changer et fait cette transformation à partir de l'Évangile. Quand on a entendu que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité, et une personne croit dans cette bonne nouvelle, il est né de nouveau. Il est délivré de ses péchés. Il a mis à mort, donc, l'homme ancien qui est en lui, comme on l'a lu dans le texte, « Car vous êtes morte et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. » Donc, l'idée, c'est que Dieu nous a déjà établis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est déjà là, d'après ce que Dieu nous dit, mais on est ici-bas. Notre esprit est attaché à Dieu en Christ. Et ici-bas, on est toujours dans la chair. Et on a parlé la semaine dernière de la chair, que c'est vraiment attaché à nous. On reste être humain pendant toute cette vie. On ne peut pas se détacher de notre humanité. Mais c'est à la mort que Dieu va faire ça. Donc, on est ici-bas. Et on est attaché à Dieu dans les lieux célestes. Mais Dieu met son Saint-Esprit en nous pendant notre voyage ici-bas. Maintenant, nous avons, grâce au Saint-Esprit qui est en nous, des avantages sur le péché. Parce que le péché, bien qu'il est dans notre corps, et notre être, eh bien, Dieu nous donne l'autorité de dire non. Souvent, quand Paul parle de notre liberté en Christ, il parle de l'abstinence. L'abstinence, c'est le pouvoir, le droit de dire non à nos droits humains. Le droit humain, c'est ce qui est naturel. Mais la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Donc, en Christ, nous sommes libérés de la domination du péché. Vous n'êtes pas asservi, vous n'êtes pas obligé de pécher. Au lieu de pécher, vous avez cette nouvelle vous, cet être né de nouveau, par le Saint-Esprit qui habite en vous, et il transformera de jour en jour votre vie. OK? Donc, le second pas, si vous voulez, c'est de se rendre compte que le Saint-Esprit est en vous, qui vous donne ce droit de dire non. Il vaincre le péché, et pour le faire, il faut que chaque personne prenne une certaine décision, soit déterminée d'arriver ou d'arrêter de pécher. On va regarder dans... qu'est-ce que c'est le verset, je vous dis? On va lire Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13, et c'est sur la page 100, la page 1180. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. C'est-à-dire, Dieu nous a sauvés, mais Dieu ne vit pas la vie pour nous. Il nous a rendus capables de vivre la vie chrétienne, mais nous devons le vivre. Il dit, mettez en œuvre, appliquez votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, cette seconde pas vers la victoire, c'est de reconnaître que Dieu est en nous, il œuvre en nous, il nous rend capables de faire sa volonté. Mais il ne le fait pas à notre place. Il attend à ce que nous nous engageons devant lui. Depuis le moment du salut, le Saint-Esprit, il est constamment en train de nous renouveler nos pensées. Comment il fait ça? Par la parole de Dieu. Il faut donc que vous soyez renouvelés. Permettez à Dieu de développer cette nouvelle personne qu'il a créée en vous. Et comme je viens de dire, c'est absolument nécessaire qu'on lise, qu'on écoute la parole de Dieu et qu'on le mette en pratique parce que la parole de Dieu est l'instrument du Saint-Esprit pour travailler en nous. C'est Dieu qui agit dans notre renouvellement, dans nos pensées, pour que nous ayons des nouvelles pensées, une nouvelle façon de vivre. Regardez dans Romains chapitre 8 et verset 13, et je pense que c'est le verset que j'avais utilisé la semaine dernière. Romains chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc, il y avait une petite ambiguïté dans cette chose-là. Donc, vous savez bien, avec Adam et Ève, Adam a péché, il est mort. Spirituellement, tout de suite, et physiquement, plus tard. Okay? Quand on croit en Jésus-Christ, Dieu renouvelle notre esprit, il vivifie l'esprit. On va mourir plus tard, physiquement. Mais quand on a cru en Jésus-Christ, Dieu ne nous condamne plus à l'enfer, à peine éternelle. Donc, si on fait des bêtises dans la vie, ça pourrait raccourcir notre vie. Hein? Par exemple, si vous sautez d'un avion sans parachute juste pour voir ce que ça donne, eh ben, vous savez ce que ça donne. Ok, c'est simplement pour donner un exemple extrême. Mais donc, il faut pas mal comprendre cette phrase. Si vous vivez ça dans la chair, donc vous aurez les conséquences de vivre dans la chair. Vous prenez des drogues, on a déjà parlé de ça d'autres fois, hein, deux jeunes dans une certaine église baptiste en Alabama, eh bien, un a pris une drogue, il est mort. Son ami a pris une drogue, il est presque mort. Ça lui a pris plusieurs mois dans le coma. OK? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des bêtises. Dieu ne nous protège pas de nos bêtises. On fait une bêtise, on a une conséquence. Si vous vivez selon la chair, si vous agissez comme les gens autour de vous, vous aurez des conséquences. Okay? C'est ça que ça veut dire. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, donc c'est ça ce que Dieu veut, eh bien, vous vivrez. Donc, dans le sens que votre vie va s'épanouir, vous allez vivre dans le bonheur ici pendant votre vie. C'est l'idée de mettre en pratique le salut que Dieu vous a donné. Donc, à comprendre bien que la victoire est seulement en coopération avec le Saint-Esprit. OK? Je pense que je l'ai bien dit. Dieu ne va pas vivre votre vie pour vous. Ah, mais Dieu ne l'a pas fait, donc je ne l'ai pas fait non plus. Ah, mais je ne suis pas réveillé ce matin, Dieu ne m'a pas poussé. Ça ne marche pas comme ça. Dieu nous dit ce qu'il veut, et puis nous mettons en pratique. On coopère avec Dieu. Donc cette idée est absolument nécessaire. Il faut participer avec le Saint-Esprit. On a déjà lu ces versets-là. Donc par exemple, si Dieu vous encourage à faire un changement dans votre vie, il faut que vous faites ce changement dans votre vie. Il ne va pas le faire pour vous, mais il va vous encourager à le faire. Ne refusez pas au Seigneur quand il vous encourage à faire un changement dans votre vie. Le changement de Dieu, c'est toujours vers la sainteté. C'est jamais vers le péché. Parce qu'il y a toujours la chair, hein, de votre humanité qui voudrait que vous changiez dans le mauvais sens. Ou le monde qui vous pousse, ou le diable qui vous donne une tentation, quelque chose. Il y a toujours des suggestions de faire du mal, mais la suggestion de faire le bien, ça vient de Dieu. Donc, vous travaillez avec Dieu, vous marchez avec lui, c'est une expression très biblique, marcher avec l'Esprit. Dieu ne travaillera ni contre votre volonté, ni sans votre volonté, il travaillera avec vous. C'est-à-dire vous avec Dieu. C'est une coopération, c'est les deux qui marchent en même temps. OK? Et puis, le troisième pas vers la victoire, c'est justement cette idée de mettre à mort en nous, l'ancien homme, le péché qui est en nous. On peut voir dans Romains chapitre 6, donc c'est la page 1129, Romains chapitre 6 et versets 6 et 7, sachant que notre vieil homme, donc ça c'est l'humanité, la nature pécheresse, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça, c'est l'optique de Dieu. Vous, le fait que vous avez cru en Jésus-Christ, votre nature pécheresse était déjà crucifiée avec Jésus-Christ, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance. Donc, l'objectif de Dieu, Dieu veut que le péché n'a point de pouvoir dans votre vie, que ça soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc ça revient à toute cette question de semence. Si vous semez à la chair, vous allez faire des bêtises. Et si vous semez à l'esprit, vous allez récolter des bénéfices spirituels. OK? Maintenant que vous êtes enfant de Dieu, le péché n'a plus de droit à régner sur vous. Plus de droit. Vous êtes libre. Vous pouvez et vous devez dire non. Donc, quelque part, si vous pouvez accepter cette idée, je ne sais pas pour l'exact vocabulaire à utiliser, vous devez cultiver un dégoût ou une haine envers le péché dans votre vie. Il ne faut pas avoir la haine envers les autres. Les gens autour de nous sont des pécheurs. Ah, il faut les aimer pour les amener à Jésus. Mais dans ma propre vie, il faut développer cette dégoût ou cette haine pour le péché dans ma vie pour que je puisse vaincre, justement, le péché. Il ne faut pas protéger les péchés qui sont dans votre vie. Vous avez peut-être quelques péchés préférés. Vous dites, ah, ben, je suis très bon chrétien, sauf dans ce point-là, et j'aime bien ce point-là. OK? Il faut pas protéger vos péchés. Si vous manque dans un certain domaine, la volonté contre un péché, eh bien, il faut demander à Dieu de créer en vous le vouloir de lui plaire, même sans, dans ce domaine-là. OK? Il ne faut pas l'ignorer, parce que c'est ça le point que Dieu veut changer dans votre vie. On est toujours dans Romains chapitre 6, et je voudrais lire maintenant les versets 10 à 14. Romains chapitre 6, versets 10 à 14, qui parle un peu plus de cette idée de mettre à mort le péché. OK? Car il est mort. Qui est-ce il? Il est Jésus. Jésus est mort. OK? Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Donc Jésus ne va pas revenir payer pour un autre de vos péchés. Oh, mais peut-être il a oublié celui-là. Non, il est mort une seule fois pour tous les péchés du monde. Vous ne pouvez pas commettre un péché qui était hors la pensée de Dieu quand il a conçu l'idée du salut en Jésus-Christ. Tout péché était dans la pensée de Dieu depuis Adam jusqu'au dernier homme. Et quand Christ est mort, il est mort une fois pour tout. Il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, tout ça, c'est Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité, il vit pour Dieu. OK? Ainsi vous-même, vous les chrétiens, n'est-ce pas? Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Nous devons compter nous-mêmes comme si nous étions morts. Est-ce que vous êtes morts? Si vous m'entendez, vous n'êtes pas morts. Vous n'êtes pas morts, mais vous devez considérer que vous êtes humainement morts au péché, morte au mal et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est une optique, c'est une façon de penser. OK? Ainsi vous-même, regardez-vous comme. Donc, vous n'êtes pas morte et Dieu n'enseigne pas le suicide. Hein? Ça, ce n'est pas du tout l'idée ici. C'est une attitude, une optique de vie que je ne me donne plus le droit à faire le mal. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Donc, c'est un souhait. Quand on dit que ça n'arrive pas, c'est un souhait. Dieu sait que vous allez pécher ici et là. Et si vous avez péché, nous avons l'avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. OK? Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, sa volonté, c'est que vous ne péchiez même pas une fois, que le péché ne règne point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, vous n'êtes pas obligé d'obéir parce que vous êtes libéré. Le non-croyant, il n'est pas libéré. Il va obéir aux convoitises de la chair. Mais le croyant a une puissance en lui qui s'appelle le Saint-Esprit, qui lui donne l'autorité de dire non. Et non pas simplement de dire non, mais de faire autrement. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donc, un côté, ne livrez pas vos membres. Vous voyez, il y a plein de chrétiens qui disent, « Oh, mais j'ai le droit à faire ce que je veux. » Et donc, ils font ce qu'ils veulent. Tout simple. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ils ont le droit. Il y a des gens qui font tel ou tel péché depuis 30 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, « Bon, j'ai le droit. » Et humainement, sans doute, on a peut-être le droit à faire ceci ou cela. Pourtant, ça ne plaît pas à Dieu. Donc, c'est un point extrêmement important. Ne livrez pas vos membres. Il ne faut pas dire oui. On a trop l'habitude de dire oui. Quand Dieu veut, qu'on dit non. Et Dieu nous a donné l'autorité de dire non. Et il a dit, à la fin, à donner vous-même à Dieu. Quand il dit donner vous-même, on ne peut pas insister plus à ce qui doit agir. Donnez-vous vous-même. Donc Dieu vous donne l'autorité en Jésus-Christ d'agir en son nom pour faire le bien. Mais il faut agir. Si vous n'agissez pas, vous ne le faites pas. Il ne faut pas vous livrer au mal. Il faut agir dans le nom de Dieu, dans la puissance de Dieu. Comme étant vivant de mort que vous étiez. Avant de croire en Jésus, on était mort dans le péché. Et en Jésus-Christ, nous sommes vivants en Jésus-Christ. Donc, il dit à offrir à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc, on se présente à Dieu et Dieu agit en nous et à travers nous. En coopération, nous agissons avec Dieu. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu a déclaré que le péché n'a plus de pouvoir dans vos vies. Vous pouvez croire, vous pouvez ne pas croire. Mais il a dit, donc c'est vrai. Mais si vous vous livrez au péché, c'est pas que vous faites le menteur de Dieu, mais c'est que vous êtes traître. À chaque fois que vous péchez, c'est que vous avez péché. Comme quand vous faites le bien, c'est vous qui faites le bien, mais c'est Dieu qui agit en vous. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc on ne craint pas une punition parce qu'on a fait le mal. Il faut qu'on confesse. Il faut confesser quand on fait le mal. Mais quand même, on ne craint pas que Dieu va nous mettre en enfer quelque chose parce qu'on a fait un péché. Parce que ça, c'est déjà réglé depuis la croix. Donc, je vais vous donner quelques suggestions, quelques démarches pratiques. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17. Donc, c'est tout un paragraphe, mais je vous donne un verset. Si quelqu'un est en Christ, donc on parle à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Le moment où vous croyez en Jésus-Christ, vous entrez donc en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, vous avez une ancienne vie et Dieu ne voit plus cette ancienne vie. Dieu vous voit comme une nouvelle création, comme une ardoise blanche, je ne sais plus comment on appelle ça. On a tout effacé et maintenant, tout est à écrire. Donc, à vous d'écrire ce que vous voulez sur votre ardoise. Vous voyez? Donc, le premier point, c'est tout ce qu'on a déjà dit, c'est il faut que vous considérez votre vie ancienne, votre vie de péché, vos péchés préférés, morts. C'est une décision. OK? Second point, Romains chapitre 13, verset 14, est très semblable au premier point. Romains chapitre 13 et verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, imprégnez-vous avec la parole de Dieu, permettre le Saint-Esprit d'agir en vous. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ne pas mettre de côté quelques péchés que plus tard vous allez faire. Quand Dieu ne regarde pas, je vais faire ceci, cela. OK? N'ayant pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, des fois, il faut, par exemple, en poursuivant cette idée, eh bien, il faut peut-être quitter les amis. Ou au moins, il faut dire à vos amis que vous êtes devenu chrétien. Il faut prendre position. Parce que aussi longtemps que vous dites rien du tout, ou que vous ne faites rien du tout, eh bien, ils pensent que vous êtes toujours pareil. Vous êtes peut-être malade, quelque chose ne va pas, mais ils ne savent pas. Et vous ne pouvez pas, les aider non plus. Parce que vous ne dites rien. Il faut prendre position pour Jésus. Après, il faut cultiver une vie qui plaît à Dieu. Alors, j'ai fait un petit résumé de 1 Thessaloniciens. Je le cherche sur mes papiers. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 7. Mais je ne vais pas tout lire, je vais simplement faire le petit résumé. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Je vais lire le premier verset quand même. Parce que je ne vais pas le dire correctement. Donc, chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, on a une certaine manière de nous conduire. Nous devons plaire à Dieu et nous devons faire de progrès en progrès. Est-ce que vous allez devenir un super saint dans un jour? Non. Dans 3 mois? Non. Dans 5 ans? Non. Paul, à la fin de sa vie, a dit, je continue de faire de progrès en progrès et je ne prétends même pas avoir atteint le but. Parce que quand est-ce qu'on va arriver au but? C'est après la mort dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Après, donc, il va parler de l'importance de la parole de Dieu. Il va parler de la sanctification et insistant sur l'abstinence. Il va dire qu'il faut... qu'est-ce que j'ai mis là? Il faut revoir le verset 4. J'ai mal écrit ça. Maîtrisez votre corps. Hein, c'est un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Il faut vivre sans convoitise. Il faut vivre au verset 6, sans fraude, donc dans l'honnêteté. Et puis verset 7, dans la pureté et la sanctification. Tout ça, c'est les façons de vivre, c'est les choses que Dieu veut de nous. Oh, j'ai perdu ma page encore. Bon, c'est bon. Donc, cultiver une vie qui plaît à Dieu, de progrès en progrès. Peut-être il y a des problèmes aujourd'hui, mais peut-être il y a moins de problèmes demain, il y aura moins de problèmes le lendemain, etc., etc., etc. OK? Cultiver une vie qui plaît à Dieu. C'est là que j'allais dire dans le verset, on a chanté tout à l'heure, cherchez d'abord le royaume de Dieu, etc. Cherchez. C'est un mot là. Dieu a tout mis dans la parole, mais si vous ne le lisez pas, ou si vous ne faites aucun effort, cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est à nous de le faire, parce que Dieu veut qu'on le fasse. Après, donc, je vais plus vite, il faut que vous donnez un temps de qualité pour la prière. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut confesser vos péchés. Il faut dire à Dieu. Parce que, donc, dans Proverbe 28, verset 13, il dit, si vous cachez vos péchés, vous ne pouvez pas profiter, vous ne pouvez pas progresser. Donc, si vous cachez vos péchés, vous ne progressez pas, mais si vous les confessez et les délaissez, Dieu va vous bénir. Okay? Aussi, il faut garder du temps de qualité pour étudier la parole de Dieu. Il ne faut pas négliger la parole. En Jean 17, 17, Jésus dit, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Dieu nous a donné la parole pour nous rendre fortes comme chrétiens. Il faut gérer votre temps. Donc encore, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, n'est-ce pas? On a 24 heures tous, chaque jour. C'est pareil pour nous tous. Mais si vous passez 5 heures à l'ordinateur en faisant les jeux vidéo, par exemple, eh bien ça c'est 5 heures perdues. OK? Donc à chacun de savoir comment il utilise leur temps. Est-ce qu'on utilise le temps bien? Il faut bien gérer. C'est comme l'argent. Vous avez l'argent, vous gérez votre argent, ben vous avez du temps et vous gérez votre temps. Okay? Et puis, je voudrais lire dans Hébreux chapitre 4. C'est un peu en conclusion. Donc, les points que je vous ai donnés comme démarche pratique. Donc, mettez à mort votre nature pécheresse. Ne faites pas provision pour faire les péchés plus tard ou en réserve. Cultivez une vie qui plaît à Dieu. Donnez du temps de qualité pour la prière et pour l'étude de la parole. Et puis, gérez votre temps. Okay? Puis dans Hébreux chapitre 4, je vais vous lire versets 15 et 16. Verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire. » Donc, les Juifs avaient des souverains sacrificateurs qui étaient les êtres humains, mais dans leur péché. Aujourd'hui, dans les lieux célestes, Jésus est notre avocat, il est notre souverain sacrificateur, il plaide notre cause. Il dit, au contraire, il, le Seigneur Jésus-Christ, il a été tenté ici-bas comme un être humain. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il sait ce que ça veut dire d'être tenté à pécher. Il peut compatir quand on est tenté de faire quelque chose. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu n'a jamais attendu que vous fassiez votre vie chrétienne toute seule. C'est pas comme ça qu'il voulait. Il veut être avec vous, il est avec vous, mais il veut que vous agissez en coopération avec Dieu. OK? Je vais lire 1, 2, 3, 4 versets. Presque comme les arrière-pensées, mais ça, c'est aussi partie de la conclusion. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il dit qu'il y a les mauvais jours. On a tous des mauvais jours. Et dans ces mauvais jours, eh bien, je veux qu'on reste debout. Si on tombe, il faut se relever. Il ne faut pas rester en bas. OK? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc ça veut dire que toujours quand il y a une tentation, Dieu le sait, il est au courant et il vous dit, ben voilà, la porte est là. Alors vous dites, ah, mais j'aime bien ce péché-là. Eh bien, vous fermez la porte. Et vous dites, ah oui, mais où est la sortie? Vous prenez la sortie, comme Joseph. OK? Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ça, c'est Hébreux chapitre 2 et verset 18. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. OK, donc dans le grec, le mot tentation et éprouvé, c'est le même mot. OK, donc les épreuves, les tentations sont là, mais à chaque fois que vous êtes face à une tentation, c'est une face et pile. Donc le diable vous présente une petite tentation et Dieu l'utilise comme épreuve. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que vous surmontez. Le diable veut que vous tombez. Eh bien, c'est vous qui choisissez de quelle direction vous allez. À chaque fois, à chaque fois. Mais Dieu a promis qu'il n'y a pas une tentation qui est hors norme. Hein? Des autres personnes ont tous été confrontées aux mêmes difficultés. Mais c'est vous maintenant qui sont dans cette situation et il y a toujours, selon vos propres capacités, une sortie de secours. Il faut toujours prendre cette sortie de secours. Okay? Donc, je vous rappelle qu'il y a les papiers là-bas que vous pouvez prendre. Ça va développer la chose encore plus. En fait, j'ai condensé 6 ou 7 messages ces dernières 3 fois. Pour ne pas passer trop de temps sur ces thèmes. Mais c'est vraiment important qu'on comprenne le problème du péché en nous. Que Christ a payé la pénalité pour tous nos péchés. Dieu nous a pardonné. Il n'y a aucun péché dans nos vies qui sont inconnus à Dieu. Même les choses que vous allez faire dans 5 ou 10 ans, Dieu déjà il connaît tout ça. Il ne veut pas qu'on marche dans la mauvaise voie. Et il nous a donné le nécessaire pour ne pas marcher dans le mal. À nous de connaître la volonté de Dieu, à passer du temps dans la parole, dans la prière, dans la confession, etc., et de marcher avec Dieu. C'est possible. C'est pas possible à 100%, j'ai pas dit ça. On ne croit pas à ces gens de « Oh, ben, j'ai pas péché depuis 50 ans. » Ça, c'est un mensonge, n'est-ce pas? Hein? Mais la réalité, c'est qu'on peut vivre une vie chrétienne. Et quand on pêche, on confesse. Et Dieu, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen.